Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Vincent Hédin pour parler de la face cachée de la philanthropie. Salut Vincent.
Salut Pierre.
Alors je te présente en 10 secondes, t'es journaliste et auteur du livre « Quand la charité se fout de l'hôpital, enquête sur les perversions de la philanthropie » aux éditions Rue de l'Échiquier. Avant ça, tu travailles chez Admical, un think tank d'entreprise mécène où t'étais aux premières loges de ce monde de la philanthropie. T'aides aussi bénévolement des ONG à lever des fonds auprès d'entreprises. Tu confesses même dans le livre avoir animé des dîners de gala pour lever des fonds. Pourquoi? Parce que sans cette charité, plein de projets non lucratifs ne verraient pas le jour, tout simplement. Le but, c'est pas de cracher sans raison dans la soupe. Mais ce n'est pas une raison pour tout accepter et renoncer aux idéaux de partage de richesses et juste de décence, tu dis, que certains philanthropes autoproclamés bafouent allègrement. T'ouvres le livre avec une anecdote incroyable. En 2020, Brigitte Macron lance l'opération Pièce Jaune. C'est la nouvelle marraine de l'opération après Bernadette Chirac. Est-ce que tu peux nous raconter?
Oui, Brigitte Macron lance l'opération Pièce Jaune. Il y a toujours un parrain ou une marraine très médiatique. Avec la Première Dame, c'est une grande tradition. Il y a eu Bernadette Chirac avant, mais Carla Bruni et d'autres ont toujours eu leur fondation. Le don et la politique sont intimement liés. Et puis, alors qu'elle en appelle à la générosité du public, elle explique qu'en fait, sans le don des particuliers, l'hôpital public est menacé. Et moi, je me disais, c'est quand même dommage, parce que Brigitte Macron, alors je ne sais pas si elle le voit tous les jours, parce qu'il a un agenda hyper chargé, mais elle connaît bien quand même Emmanuel Macron, et il se trouve qu'il a parmi ses subordonnés le ministre de la Santé, et puis chaque année, c'est lui qui est quand même derrière un énorme texte qu'on appelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et qu'au fond, si on s'inquiète pour l'hôpital public, le plus sûr moyen de l'aider, c'est encore d'y allouer des moyens publics et pas d'attendre la charité privée. Voilà.
Effectivement, c'est choquant parce que Macron a réduit de 5% les lits d'hôpitaux entre 2012 et 2019. Le ministère de la Santé, celui qui a supprimé le plus de postes. Et donc, le message, c'est clairement, c'est aux citoyens de payer, pas à l'État, même si l'État est quand même financé par les impôts, en tout cas, la charité individuelle, quoi. Sous-entendu, parce qu'il n'y a pas d'argent public, il n'y a pas d'argent magique, l'État est endetté. Alors que si les plus riches payaient leurs impôts comme tout le monde, pouvaient amplement répondre, financer les besoins de l'hôpital, quoi. Enfin, je ne sais pas s'il vient de là, le titre, parce que c'est littéralement la charité qui se fout de l'hôpital.
Alors, le titre, il vient d'une seconde anecdote un peu plus tard. C'est qu'en fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais entre mars et mai 2020, on a tous été pris une grosse crise de flemme. On n'a plus beaucoup bougé. On est pas mal resté chez nous.
Ouais.
Et... Bon, moi, ça m'avait beaucoup affecté parce que j'étais journaliste, prof, et j'animais beaucoup de conférences en présentiel. Et donc, tout d'un coup, là, mon monde bascule. Donc, je suis d'une humeur pas folle. Et j'entends Gérald Darmanin, qui à l'époque était ministre du budget, et qui dit, bon, là, dans les hôpitaux, on manque de tout. Il n'y a même pas de masque. On n'a pas de respirateur. Donc, s'il vous plaît, faites des dons. Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est le ministre du budget, lui aussi. Il a la main sur ce que la puissance publique peut financer pour l'hôpital public. Et il nous dit, j'ai créé une grande cagnotte litchi, allez-y les gars, aidez-nous. Là, c'est vraiment indécent. Donc, ouais. Comme j'ai un peu de temps à perdre parce que je suis confiné comme tout le monde, je vais aller regarder si vraiment on se paye aussi souvent notre fiole, si c'est souvent arrivé dans l'histoire qu'on arrive à ce niveau de manipulation. Voilà.
Le problème, c'est évidemment pas de donner de l'argent et de faire des dons, mais souvent, c'est peanuts par rapport à la fortune de ces personnes. Paul Lafargue, il disait « voler en grand, restituer en petit, c'est la philanthropie ». Et c'est vrai que pendant le Covid, à part le fondateur de Twitter, Tekrik, qui a donné plus d'un quart de sa fortune, soit $1 milliard, pour lutter contre le Covid, la plupart, ils ont donné, entre guillemets, des cacahuètes. Zuckerberg de Facebook, il a donné $25 millions, c'est même pas un millième de sa fortune. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est l'équivalent de quelqu'un qui gagne le SMIC, qui donne 10 euros, défiscalisé en plus. Donc, ça ne représente pas grand-chose par rapport à leur fortune, mais à la limite, ils ne sont pas obligés de donner un gros pourcentage. Mais ça ne représente surtout pas grand-chose par rapport aux aides de l'État et aux impôts qui ne paient pas. T'écris même, et si les donateurs étaient des voleurs, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu les traites de voleurs et peut-être parler du champion en la matière, apparemment, Bernard Arnault?
C'est un des champions, mais pour être très honnête, la concurrence est hyper relevée. C'est vraiment...
Champions League.
Une League of Legends de la fraude fiscale. Alors évidemment, moi, quand j'écris ça sur LinkedIn, qui est un réseau social où je suis très actif et où les créateurs de richesses, comme ils les appellent, sont adulés, on me dit à chaque fois, attention, procès en diffamation. Bon, j'en ai jamais eu, il y a 200 notes de bas de page dans mon livre, je suis très serein sur ce que j'avance. En fait, quand on dit voleur, il faut s'entendre. Il y a deux types de vols. Il y a un vol légal, et ça, c'est très ennuyeux. qui est que la fiscalité sur les hyper riches a été ultra allégée avec des phénomènes dont on dit que c'est de l'optimisation fiscale, et puis il y a la fraude. Et la fraude, par définition, elle est compliquée à évaluer. Mais les estimations les plus basses tournent autour de 80 milliards par an qui manquent aux finances françaises. 80 milliards par an qui manquent à cause de la fraude. Et évidemment, cette fraude, elle est réalisée par ceux qui ont les moyens de mettre des milliards à l'étranger et d'avoir des avocats fiscalistes, c'est-à-dire pas les allocataires du RSA ou les personnes qui sont au SMIC. Mais ensuite, il y a l'optimisation. Et pour moi, ça reste du vol. Alors on me dira, c'est légal. Oui, mais parce qu'en l'occurrence, les complices du vol sont un certain nombre de responsables politiques qui les ont aidés. Gabriel Zucman, qui est un des élèves de Thomas Piketty, conseil Bernie Sanders et autres, il a fait des études sur ce que les milliardaires payent comme impôts.
Okay.
Et il se trouve que les milliardaires français sont les champions du monde. Donc ça, c'est une étude qui a paru fin 2022. En moyenne, sur la totalité de leur patrimoine et de leur fortune, ils payent 2% d'impôts. Je ne sais pas combien est-ce que tu payes d'impôts, mais on s'est tous acculturés à ça depuis que notre déclaration elle est passée en numérique sur impots.gouv.fr. Tu as ta tranche, tu connais ton taux, tu sais exactement combien tu dois. Et le principe de base de l'impôt, depuis 1914, depuis l'effort de guerre, c'est la progressivité. Ceux qui ont beaucoup payent beaucoup, ceux qui ont peu payent peu. Et tout repose là-dessus. Et c'est pour ça que le corps social s'entend. Ceux qu'on peut, ils payent 1 ou 2%. Enfin, déjà, il y a 50% des Français qui ne payent pas d'impôts. Et puis ceux qui commencent à payer de l'impôt sur le revenu, ils payent à mesure de leurs moyens. Et quand tu as beaucoup, tu payes beaucoup. Et ça se décline dans des tas de secteurs dans la société française et ça se passe très bien. Ceux qui gagnent bien leur vie, ils payent beaucoup plus pour la crèche, la cantine de leurs enfants, le centre de loisirs que d'autres qui n'ont pas de moyens. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce phénomène qui est assez merveilleux, qui est que quand tu as des écarts de revenus qui vont de 1 à 18 entre le premier et le dernier décile, ils sont réduits de 1 à 3 grâce au mécanisme de la redistribution. Wow. On redistribue beaucoup. Moi, j'ai la chance de très bien gagner ma vie. Je redistribue beaucoup, ça me va très bien. Mais je paye plus d'impôts en proportion que Bernard Arnault et ça me chagrine.
Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Bernard Arnault ?
Alors, on peut reprocher plusieurs choses à Bernard Arnault. D'abord, on peut lui reprocher d'avoir de jouer cette optimisation fiscale agressive qui fait qu'il ne paye que 14% sur ses salaires. Et ça, c'est quand même assez choquant parce que 14%, ça correspond à une personne qui gagne environ 3000 euros par mois. Pour l'homme le plus riche du monde, c'est un peu choquant. Et ensuite, on peut lui reprocher d'avoir mobilisé tout le pôle fiscal de LVMH pour faire de la fraude. C'est identifié par l'État parce qu'il y a un groupe de journalistes qui s'appelle le Consortium International des Journalistes d'Investigation qui ont sorti un certain nombre d'enquêtes retentissantes, les Panama Papers, les Paradise Papers, les LuxLeaks, qui à chaque fois montrent les grandes fortunes dissimulées au Luxembourg. Et Bernard Arnault, c'est un peu le Novak Djokovic de la fraude fiscale, c'est-à-dire qu'il fait grand chelem, il est dans toutes les affaires. Son yacht qui vaut 130 millions d'euros, il est fiscalisé au Caïman alors qu'il n'a rien à y faire et que quand il veut pouvoir mouiller en Méditerranée, il demande à l'État français de venir lui faire des aménagements pour qu'on l'aide un peu parce qu'il est trop gros, ce yacht, pauvre chaton. Et donc, il demande de l'aide d'un côté et de l'autre côté, il ne fiscalise pas. C'est le groupe du CAC 40 qui a le plus de filiales au Luxembourg. Mais ça veut pas dire que dans le duché du Luxembourg, c'est là où on vend le plus de sacs, de parfums et de robes. Donc, tout cet ensemble de choses parfaitement scandaleuses lui permettent de ne pas payer des milliards d'euros qu'il doit à l'État. Et puis, pour aller tout de suite là où ça fait très mal, il y a à la lisière entre Paris et Neuilly, la Fondation Vuitton. Et la Fondation Vuitton, elle a donc été érigée par un architecte qui s'appelle Frank Gehry pour la gloire de Bernard Arnault. Alors lui, il dit que c'est de la philanthropie, mais en réalité, c'est un très grand musée d'art contemporain dont l'entrée aux expositions coûte souvent une vingtaine d'euros. Enfin, c'est quelque chose qui est fait pour être profitable. Bon, cette fondation, elle repose sur un contrat de mécénat. Donc, tu as rappelé que j'avais travaillé chez Admical. Quand on a un projet qui relève de l'intérêt général, l'État vérifie que, effectivement, le projet repose sur de l'intérêt général. Donc souvent, dans le domaine de la culture, on dit que c'est le cas. Et puis, il estime le projet à un certain montant. Et sur ce montant, l'État s'engage à rembourser 66%. C'est ce qu'on appelle les déductions fiscales. Et donc, Bernard Arnault dit, moi, je vais mettre une fondation à cet endroit-là. mais c'est pas une fondation pour moi, ce sera ouvert, c'est pour l'intérêt général, etc. Donc ça déjà, en fait, c'est un peu contestable quand même. Il choisit de prendre l'architecte le plus cher au monde, Frank Gehry, alors qu'il aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Et alors qu'il est l'homme le plus riche du monde, il décide de pas prendre les travaux à sa charge. Très bien. C'est 100 millions d'euros. Bon, sur ces 100 millions d'euros, l'État va rembourser 66. Si ça s'était arrêté là, il n'y aurait pas eu de souci. Mais ça en a coûté 800. C'est quand même un peu embêtant quand tu es l'homme le plus riche au monde, que tu donnes des leçons d'économie à tout le monde, que tu es persuadé de savoir compter à l'euro près, de te planter d'un rapport de 1 à 8 [S2] Ouah. [S1] Sur ton chantier. Et là où c'est un vrai scandale, c'est que la déduction fiscale, elle s'est déportée de 100 à 800 millions. Donc en clair, on a remboursé les deux tiers de ces 800 millions, donc 540 millions d'euros ont été payés par les contribuables français pour que Bernard Arnault n'ait pas à les débourser. C'est consigné dans un rapport de la Cour des comptes, c'est pour ça que là, je suis très très serein quand j'en parle, qui est apparu en 2018. C'est un énorme scandale, et c'est d'autant plus un scandale qui a un conflit d'intérêts qui ne passe pas la porte, c'est que la personne, donc la convention de mécénat, elle a été signée entre la ville de Paris et LVMH, et le représentant à la culture de Bertrand Delanoë à l'époque s'appelle Christophe Girard. Et Christophe Girard, à côté de ses faibles émoluments de conseiller à la mairie de Paris, il touchait un salaire à 5 chiffres en tant que directeur stratégie du groupe LVMH. Et donc là, on se dit, il faut vraiment arrêter de se payer notre fiole parce que ça nous coûte trop cher. On n'a pas les moyens de gérer les caprices de Bernard Arnault. C'est 500 millions d'impôts dont on ne dispose pas parce qu'on les a rendus à Bernard Arnault. Bah, et ça, c'est quand même de quoi rendre fou.
Bah oui. Donc, ça fait un sacré pactole. Alors, effectivement, ce qu'on a, nous, on a plus en tête, effectivement, parce qu'en plus, il frime les 200 millions d'euros donnés au lendemain de l'incendie de Notre-Dame et les millions de litres de gel hydroalcoolique pendant le Covid. Mais en fait, effectivement, ça, c'est pas grand-chose quand à côté, effectivement, l'État te fait économiser 500 millions d'euros donc, sur la fondation. La vraie question, c'est est-ce que la charité, ça marche? Parce que à la limite, pourquoi pas? Mais toi, tu prends l'exemple des Restos du Cœur. En 85, c'est 5000 bénévoles qui distribuent 8 millions de repas. 35 ans plus tard, c'est 70 000 bénévoles qui distribuent 136 millions de repas. Donc, il y a un problème parce que le PIB de la France, il a triplé entre ces deux dates. Et pourtant, même si on est beaucoup plus riche collectivement qu'il y a 35 ans, il y a 15 fois plus de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Enfin, on a un vrai problème de partage des richesses.
Si tu veux, il y a deux grands problèmes sur le don. Il y en a un sur lequel il faut vraiment revenir après, c'est qui est légitime pour donner des sommes importantes. Oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'on voit bien que Bernard Arnault, il a donné 20 fois plus pour restaurer Notre-Dame que pour les Restos du Cœur. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que le jugement éclairé des ultra-riches, c'est forcément un progrès pour l'intérêt général? Je crois pas. Oui. Mais en plus, évidemment, c'est pas efficace. La philanthropie, elle n'existe pas sans un discours très fort qui est que donner de l'argent à l'État, c'est une gabegie qu'ils ne savent pas utiliser et qu'eux, ils feront mieux. Leur calcul, et il n'est pas bête, hein, soyons honnêtes, c'est que les modèles associatifs vont réussir à faire aussi bien que l'État avec moins. Bah, forcément, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles. Et les bénévoles, parfois, ressemblent à du salariat maquillé. Les grands problèmes sociaux auxquels la France fait face, non, le modèle charitable, il marche pas. On a évidemment un problème de richesse considérable. Je crois que les 500 plus grandes fortunes de France, quand Challenge a commencé son classement dans les années 80, ils avaient quasiment 10% du PIB. Aujourd'hui, ils en ont 40. Bon, donc, il y a bien des gens qui se sont considérablement enrichis. Et dans le même temps, l'hôpital public, l'école publique, les universités publiques, se sont très largement paupérisés. Tu parlais de l'activité des restos, mais on peut ajouter comme ça d'autres grands indicateurs qui montrent qu'on ne vit pas mieux en France qu'il y a 40 ans. Ça ne veut pas dire que je suis nostalgique et que je pense qu'il y avait une époque, il y avait un âge d'or avant. Sociétalement, c'était sans doute moins bien, mais en termes de partage des richesses et de grands indicateurs de ce qu'est une vie bonne, la situation était objectivement moins grave avant. Il y avait moins de gens qui avaient des problèmes à se loger, il y avait moins de gens qui avaient faim, il y avait moins de gens qui vivaient dans des passoires thermiques, et il y avait moins de gens qui n'avaient pas les moyens de se payer une fin de vie digne dans un EHPAD ou autre. Voilà. On a vraiment un problème de partage des richesses qui nous mène sur une pente américanisante. On n'est absolument pas les États-Unis, La crise Covid l'a rappelé. Quand tu vas à l'hôpital public, tu es soigné sans qu'on te demande ta carte bleue en amont. Mais quand même, il y a de plus en plus de trous dans la raquette où on te demande d'aller dans le privé. Et ça, c'est récent. Tu vois, aujourd'hui, si tu veux aller voir un spécialiste et que tu n'habites pas dans une grande métropole,
c'est clair.
Bah, tu vas avoir 6-9 mois d'attente. Et donc, s'en sortiront seuls ceux qui peuvent payer un spécialiste avec des dépassements d'honoraires. Tu vois, un cardiologue à 150 euros la consultation, bah évidemment, ça met beaucoup de monde de côté. Donc oui, on est sur une pente inquiétante et il serait peut-être un peu temps de se ressaisir, quoi.
C'est ça que je trouve aberrant, c'est qu'on nous a tellement convaincus qu'il n'y avait pas d'argent qu'on s'en contente alors que l'argent, il est là, quoi. Et c'est juste qu'on ne va pas le chercher. Enfin, qu'on ne va pas le chercher. Qu'il ne paye pas ce qu'il devrait payer, en fait.
Non, il paye pas ce qu'il devrait payer. Et si tu veux, il y a eu donc le début de tout ça, le début de cette grande histoire, il est très clair. C'est les années 80, le fameux trickle-down, ruissellement en français, qui commence avec Reagan. Il faut quand même savoir qu'en 1980, le taux marginal d'imposition aux États-Unis, c'est 92%.
Wow.
Voilà, c'est 92. Et tous les pays du monde, tous les pays d'Occident, pardon, payent énormément d'impôts. Parce que c'est la réponse des gouvernements à la menace soviétique. Ils ont peur que s'il n'y ait pas de partage, les gens deviennent communistes. En 80, on n'a plus très peur des Russes. Et donc, Reagan entame le truc. Thatcher lui embraye le pas en Angleterre. Nous, en France, on essaye un peu de résister. On fait l'impôt sur la fortune, etc. Mais globalement, les années 80 sont quand même restées dans l'histoire comme les années fric. Et puis, il y a un deuxième coup d'accélérateur. C'est les années 2000 et l'irruption du numérique. Parce que les champions du numérique sont aussi les champions de la fraude. On a déroulé le tapis rouge à Google, Airbnb, Uber, Netflix, qui payent peanuts par rapport à ce qu'ils devraient. Ça me fait assez mal de voir la Cinémathèque française remercier sur les réseaux sociaux Netflix de lui avoir donné 500 000 euros. Peut-être que si Netflix payait ce qu'il doit à l'État français et qui s'élève plutôt en dizaines de millions d'euros, l'État pourrait redonner 1 ou 2 millions à la Cinémathèque et on n'aurait pas à baiser les pieds de ceux qui fraudent.
Mais le tour de passe-pas, c'est trop fort parce que du coup, nous, on est là, ben non, il faut refuser ses dons parce que c'est la main qui nous nourrit, entre guillemets. Sauf qu'à la base, effectivement, il y a un vol, peut-être en partie illégal, mais surtout en partie malheureusement légal parce que facilité par du pantouflage et juste du lobbying. Enfin, ouais, là, c'est abusé, quoi.
Non, mais tu résumes bien le truc. C'est-à-dire qu'on est tous dans une position intenable. Il n'y a pas longtemps, j'avais écrit un post sur le don de Bernard Arnault au resto. Et il y avait plein de trolls qui étaient venus me voir. Ils avaient tous les mêmes éléments de langage. Ils m'avaient dit, en gros, vous n'êtes jamais content, quoi. Ils donnent pas, c'est pas bien. Ils donnent, c'est pas bien. Et j'étais là genre, non, mais regardez les ordres de grandeur. Cet homme devrait payer plusieurs milliards chaque année. Et on est en train d'applaudir un don de 10 millions. Quand bien même ce ne serait pas défiscalisé, pardon, mais le compte n'y est vraiment pas, quoi. Et donc là, il y a quand même une grande partie des gens qui ont applaudi. En plus, tu as vu la mise en scène, c'est-à-dire qu'il se rend à une distribution au resto. Le président des restos est là, un peu mal à l'aise, mais bon, enfin, ça lui sauve quand même son hiver. La ministre vient, tu vois, enfin, la ministre des Solidarités, Aurore Berger, elle est là. Elle remercie le fils Arnaud. C'est d'un cynisme terrifiant, quoi. Et autre aspect qu'on n'a pas encore abordé, mais évidemment, les dons, ils sont jamais neutres. Alors, dans le cas de Bernard Arnault, on peut s'interroger effectivement sur les intrications très très fortes qu'il y a avec la famille Macron. Brigitte Macron, elle est habillée en LVMH toute l'année. Elle est l'ambassadrice des écoles de la deuxième chance lancées par LVMH aussi. Bon, voilà, t'as ce genre de renvoi d'ascenseur, mais tu sais pas s'il y a des choses derrière. Il y a des choses plus problématiques d'un point de vue éthique. Quand la fondation Nestlé se crée et qu'elle finance des projets pour lutter contre l'obésité infantile, tu te dis, je crois qu'on se paye ma fiole. Pendant 15 ans, la fondation Total a financé des recherches contre la pollution qui affecte la biodiversité marine. Tu te dis, bah, peut-être que si vous ne faisiez pas de forage en mer, commencez par ne pas faire de mal. Voilà, si vous voulez vraiment agir pour le bien commun, arrêtez de faire du mal.
C'est comme si on avait, en fait, on se fait voler notre porte-monnaie et après on remercie le voleur de nous rendre 2 euros, quoi. Enfin...
je me souviens que j'étais dans un débat avec des gens de la Fondation de France.
Ouais.
Ils me disaient, mais quand même, vraiment, vous êtes très dur, etc. Pourquoi est-ce que vous êtes si dur avec les riches? Et je dis, écoutez, là, je voudrais vous prendre une allégorie. Je viens de voir une excellente série Netflix. Tu vois, bon, ils ne payent pas leurs impôts, mais voilà. Qui s'appelle Narcos. Et Narcos, c'est la vie de Pablo Escobar. Et Pablo Escobar, il a eu des funérailles nationales. Hein. Les gens étaient très, très tristes quand il est mort. Alors tu te dis, bah, c'est pas possible quand même, c'est un assassin, il a assassiné des milliers de personnes, en plus il avait un produit qui ne répond pas à un besoin vital. Mais Pablo Escobar, il venait d'un milieu très populaire, il trouvait que les dirigeants étaient des grands bourgeois et qu'ils ne faisaient pas assez pour les quartiers populaires, alors avec le fric qu'il a amassé avec la coke, il a financé lui-même des dizaines d'hôpitaux privés et des écoles. Et donc il était une idole dans les quartiers populaires, parce qu'évidemment, on ne mord pas la main qui te nourrit, et c'est vrai que quand tu donnes... Bah, c'est compliqué de te cracher dessus. Donc c'est vieux comme le monde. Le don ne peut pas faire oublier l'ensemble de l'œuvre. Donc évidemment, je ne compare pas Bernard Arnault à Pablo Escobar, il n'a tué personne, etc. Mais tu avais quand même une campagne de pub d'Oxfam qui était très efficace, où il y avait une opération gravissime dans un hôpital et tout d'un coup, tu avais des voleurs masqués qui arrivaient et qui débranchaient les respirateurs et ça coûtait des vies. Et en fait, c'était une allégorie de la fraude fiscale. Et il disait, bah voilà, en fait, quand vous ne payez pas vos impôts, ça a des conséquences sur les vies des gens. Parce que ça veut dire que l'hôpital sera de moins bonne qualité, l'école sera de moins bonne qualité, la justice, les routes. Ça veut dire qu'on ne finance pas la transition vers l'agriculture biologique, etc., etc. Voilà, c'est ça les conséquences de ces vols. C'est pour ça que ça rend fou.
Ouais. Et il y a plein d'autres petits problèmes liés à la philanthropie. Enfin, gros problème d'ailleurs, mais le fait que tu vas financer des sujets plutôt sexy, comme la cause animale et pas forcément la défense des femmes battues ou des migrants. Notamment parce qu'à chaque fois, le but, c'est aussi un peu de faire mousser et voilà, de se mettre l'opinion publique dans la poche, ce qu'on appelle aussi le charity washing, où Sanofi, par exemple, voilà, frime, et le but, c'est d'avoir de la couverture médiatique. Voilà, il frime de donner 100 millions pour lutter contre le Covid, mais en même temps, il verse 4 milliards d'euros à leurs actionnaires, donc 40 fois plus. Voilà, il y a plein d'exemples que tu as cités, indécents.
Je peux t'en citer plein d'autres. La fondation CTLM, groupe BNP Paribas, a des actions de lutte contre le surendettement. Lol. Moi, la charité, si tu veux, ça m'évoque une loterie de la misère. C'est-à-dire que les gens qui ont directement mis dans la mouise 1000 personnes, ils offrent 5 tickets en or, quoi, comme Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie, et ces 5-là, on va les sauver. Et après, comme on a le porte-voix médiatique, la caisse, etc., on va faire un récit en disant « Vous avez vu, on a sauvé 5 personnes. » Et les 995 autres, probablement qu'ils n'avaient pas assez envie. Probablement qu'ils ne voulaient pas vraiment s'en sortir. Ouais. Donc évidemment, il y a tout un discours derrière l'acte de philanthropie qui est « l'État n'est pas efficace, mais aussi les pauvres méritent leur sort
oui. ».
Et donc, on va aider les bons pauvres et on va choisir ces bons pauvres. Tu as eu des mots très justes quand tu as dit « il y a des causes plus ou moins sexy ». Bah, on voit bien, par exemple, aujourd'hui, les migrations, elles ne vont faire que s'accroître à cause du dérèglement climatique, de l'instabilité de certains régimes. Que font les grandes fortunes par rapport à ça ? Bah, en fait, ils sont pas engagés du côté des migrants, c'est pas vrai. Enfin, sinon, ils financeraient SOS Méditerranée. Ils financent des programmes d'insertion des bons migrants qui peuvent bosser dans la tech ou des femmes méritantes, etc. Donc, t'as toujours quelques programmes comme ça qui sont très chics, mais qui ne s'attaquent pas au problème dans son ensemble. C'est la même chose pour les femmes. T'as cité les femmes victimes de violence. Là, il y a moins de monde. Il y a pas de mécènes pour les personnes en prison, quasiment pas. Tu vois, enfin, donc, il faut que ce soit des causes télégéniques, affichables. Donc, les Restos du Cœur, bah, effectivement, si tu veux, c'est le truc emblématique parce que c'est relativement consensuel. Ça fait, enfin, qui pourrait s'opposer à ce qu'on distribue de la nourriture? Mais en revanche, quand tu vas sur des ONG qui piquent déjà un peu plus parce qu'elles critiquent le modèle de redistribution, par exemple, la Fondation Abbé Pierre, là, il y a moins de monde. Tu vois, parce qu'eux, ils disent, si vous arrêtiez de spéculer en permanence et d'être à l'origine du mal logement, des expulsions locatives, etc., peut-être qu'on s'en sortirait. Aujourd'hui, en fait, ce que montre très bien Piketty dans le Capital au XXIe siècle, c'est que les hyper riches, ils savent plus quoi faire de leur pognon, donc ils investissent beaucoup dans l'immobilier. Xavier Niel, Bernard Arnault et autres, ils ont des immeubles, et ils sont responsables de ce qu'on appelle poliment la gentrification, mais en fait, le fait de mettre les gens dehors. Ah voilà, du coup, eux, ils vont pas se retrouver mécènes d'Abbé Pierre. Et d'ailleurs, Abbé Pierre refuserait les dons. Parce qu'il y a aussi une éthique du don. Il y a beaucoup d'ONG qui sont mises au dos du mur. Et puis, il y a celles qui refusent. On le voit bien dans l'écologie, tu vois. Le WWF acceptera des dons de multinationales là où Greenpeace refusera.
Ouais, ouais c'est tellement choquant dans tellement de directions que je sais plus par... vous donner de la tête, mais il y a un autre exemple un peu similaire. Je trouve ça intéressant aussi de voir ce qui se passe à l'étranger. Pendant le Covid, en Espagne, la fondation du mec qui a fondé Zara a fait un don de 320 millions d'euros aux hôpitaux publics du pays. sauf que il y a 600 millions d'euros qu'il a soigneusement évité de payer au fisc et qui du coup faisait défaut à l'hôpital public. Et du coup, il y avait beaucoup de résistance dans la population de gens qui disaient cette phrase qui pour moi résume tout l'épisode. Nous voulons la justice fiscale et pas la charité, quoi.
Alors, en l'occurrence, c'est même pas la fondation de Zara, c'est Armancio Ortega lui-même qui avait donné qui avait proposé de donner. Et effectivement, le titre du livre, en réalité, il est que quand on a eu le droit de sortir du confinement, je me suis baladé et sur l'hôpital Saint-Antoine, il y avait marqué PSA. Alors, je sais pas pourquoi PSA, hein, mais PSA, LVMH, BNP, payez vos impôts, l'hôpital se fout de la charité. Et parce que voilà, il y avait eu beaucoup de promesses. Alors, je crois que pendant le Covid, LVMH, ils avaient dit nous, on va donner des flacons Chanel, on va les reconvertir pour en faire du gel hydroalcoolique, et nos couturières vont coudre des masques. Enfin, tu vois, on était dans ce genre de truc complètement insignifiant par rapport aux montants qui ont été dérobés. Donc, effectivement, il y a des mouvements. Et c'est plutôt planétaire. Donc là, tu as cité un exemple en Espagne, mais il y a beaucoup d'exemples aux États-Unis. Anas Garandinas, qui a écrit un essai qui s'appelle « The Winner Takes All », il parle d'une fable, en fait, à propos du fait que la philanthropie pourrait se substituer à un modèle de justice sociale.
Alors, juste avant de parler, effectivement, de ce qu'on peut faire, il y a un dernier point, quand même, collatéral, important qu'on n'a pas évoqué. T'écris que 60% des ministres du gouvernement d'Édouard Philippe, 25 sur 35, ont été redressés fiscalement. Donc, il faut prendre conscience qu'on est gouverné par des délinquants fiscaux et que c'est les mêmes personnes qui votent, par exemple, la suppression de l'ISF. Donc, bonjour les pompiers pyromanes, quoi. C'est pas juste les dirigeants économiques. Il y a vraiment, c'est ça qui fait que c'est légal aussi, quoi.
Ce qui fait que c'est légal, c'est que le personnel politique se contrefout un peu de la fraude fiscale. Tu vois, je veux dire, ça n'a jamais été un cheval de bataille pour les raisons que tu viens d'évoquer. Mais moi, je ne suis pas pour qu'on mette les gens en prison. Mais la peur de la prison serait le seul truc qui ferait peut-être réfléchir les fraudeurs fiscaux. Il y en a très peu qui y sont allés. C'est Bernard Madoff qui y est allé, Jérôme Kerviel qui a payé pour d'autres. Et là, récemment, Sam Bankman-Fried, donc le type des crypto-monnaies. Mais la plupart des fraudeurs fiscaux massifs, etc., s'en sortent toujours. Et au fond, en politique, ils sont même souvent réélus. Tu vois, je veux dire, Patrick Balkany a été maire de Levallois jusqu'en, je sais plus, c'est 2014 ou 2020.
Je sais, c'est l'exemple parfait du mec qui arrose de cadeaux tous les habitants après avoir détourné.
Exactement. Jérôme Cahuzac, on a appris qu'il avait un compte en Suisse alors qu'il était ministre du budget. Enfin, je veux dire, c'est pas entendable. Et il a fait une peine de prison. En fait, il a juste eu un bracelet électronique et il était en Corse. Alors, je veux dire, c'était pas le bagne. Globalement, la sévérité pour la justice fiscale, elle est très faible. Et d'ailleurs, il n'a pas eu le temps de le mener à bien parce qu'il est devenu ministre de l'Éducation nationale, mais quand Gabriel Attal était ministre du budget, il avait annoncé un plan contre la fraude fiscale et en même temps contre la fraude sociale. Et en fait, on se rend compte que contre la fraude sociale, il était très dur. Le nombre de contrôles des allocataires du RSA est absolument démentiel. Sur la fraude fiscale, ils étaient très légers. Et c'est d'autant plus révoltant qu'aujourd'hui, on dispose de tout l'arsenal technologique et législatif nécessaire pour les faire payer. On l'a bien vu au moment du déclenchement de la guerre en Russie, hein, quand on a voulu geler les avoirs des oligarques, etc., on sait où est l'argent. Alors que dans une pure logique de bonne allocation des ressources publiques, quand tu dépenses de l'argent contre la fraude fiscale, tu es sûr de le récupérer au centuple.
Ah ouais ?
Bah oui. Parce que si tu décides d'aller chercher les grandes fortunes, les montants en face sont tellement démentiels que tu vas récupérer beaucoup d'argent. La fraude sociale, c'est 1 milliard d'euros. 2 milliards, grand maximum. Bon, si tu te mets à embaucher des tas d'enquêteurs, etc., pour aller enquêter sur des détournements de 80 balles sur des cartes vitales, ça ne va pas aller loin. Peut-être que dans l'eau, un jour, tu auras un trafiquant qui avait fait 50 fausses cartes, etc. Non. Dans ce cas-là, tant mieux. Mais tu prends la liste des 500 fortunes françaises, t'as peu de chances de te planter.
De récupérer de l'argent, c'est de contrôler les gens et de garder son pouvoir.
Sur eux tous, tu sais que tu peux faire des redressements.
Ah oui.
Mais bien sûr. Je veux dire, c'est vraiment un vice impuni. Ils sont tous là-dedans. Pas tous. Enfin, tu vois, voilà, je me rends moi-même coupable de ce qu'il faut surtout pas faire. C'est-à-dire que c'est évidemment pas tous pourris. Mais il y a une telle concentration de relations incestueuses entre politique et grande fortune que jamais ils vont s'attaquer à la fraude fiscale. En tout cas, pas les dirigeants qu'on a aujourd'hui. Mais ça peut arriver. Hein. Je veux dire, Eva Joly, elle a montré qu'on pouvait le faire et que c'était faisable.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu parles de reprendre aux voleurs pour partager, et si oui, comment?
Un des plus grands plans sociaux publics de ces 10 dernières années, c'est les 5 800 personnes qui sont parties de Bercy et qui étaient chargées de lutter contre la fraude. Donc, peut-être déjà les réintégrer.
Ouais. Macron qui les a fait partir, c'était progressif sur plusieurs...
Non, c'était Macron. C'est Gérald Darmanin, ministre du budget, qui l'a annoncé en 2018. C'est une des priorités de Macron. C'est-à-dire que...
Venez pas embêter nos riches.
Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle te permet de détecter et de tracer la localité de l'intégralité des transactions. Donc concrètement, en fait, il n'y a aucune raison que des boîtes qui aient des activités marchandes de services comme Airbnb, Uber ou Netflix ne soient pas fiscalisées à leur juste part en France. Aucune raison. Enfin, techniquement, ça, on sait le faire demain.
Donc, tu dirais embaucher, du coup, un département qui s'occupe de la lutte contre la fraude. Et aussi, évidemment, bah, taxer les ultra-riches. Tu dis que c'est la seule option pour sauver l'hôpital ou l'éducation.
Tu vois, si on reprend Piketty, Piketty, on lui dit quand même, vous vous êtes vachement radicalisé. Il dit, ah non, moi, je reste un social-démocrate bon teint. C'est juste le monde qui s'est radicalisé avec des patrimoines, des grandes fortunes qui ont explosé à des niveaux d'indécence jamais atteints. Là, la semaine dernière, Paul Magnet, qui est le leader du Parti Socialiste en Belgique, a dit qu'il faut une taxe sur les ultra-riches. Alors après, tout le monde l'invoque pour des objectifs différents. Il y en a qui disent que c'est pour financer la transition écologique, d'autres qui disent que c'est pour financer un retour des services publics. Mais en tout cas, il n'y a pas de doute que l'histoire est cyclique et que là, on est en train de retrouver des niveaux d'inégalité en ce qui concerne les ultra-riches qui rappellent le 19e siècle.
Pour moi, c'est important de... Je n'avais pas conscience à ce point-là, mais que s'il y avait une répartition plus juste des richesses, bah, on a largement assez pour sauver l'hôpital, l'éducation, limiter la crise climatique. Est-ce que tu confirmes ça?
Ah bah, sans souci. Tu mets d'un côté l'enrichissement des 500 fortunes française qui est passée de 10 à 40% du PIB en quelques années, tu mets ça en comparaison de la dette publique, on a largement les moyens. Et donc, c'est vraiment une question de volonté. Mais bon, moi, la philanthropie, c'est ma porte d'entrée parce que c'est vraiment la façade hypocrite de notre système fiscal actuel. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. Quand tu vois qu'un groupe Carrefour touche 300 millions d'euros d'aide par an dans le cadre du CICE, donc pour lutter contre la délocalisation, le jour où les supermarchés seront délocalisés à l'étranger, c'est vraiment qu'il sera passé quelque chose d'incompréhensible. Donc tu vois bien que c'est évidemment de l'argent donné, de l'argent public. Et dans le même temps, ils donnent 300... L'an dernier, ils ont versé 320 millions d'euros à leurs actionnaires. Enfin, tu vois, il y a de l'argent qu'on peut quand même aller récupérer assez facilement pour financer tout ce qu'on a. Et par ailleurs, quand les gens te parlent de haine des riches, je pense qu'ils n'ont pas en tête les ordres de grandeur de ce que ces oligarques, parce qu'en fait c'est des oligarques, hein, mais on les appelle entrepreneurs, mais de ce que ces oligarques ont accumulé. Si tu enlèves demain, là pour le coup, tu vois, décision vraiment soviétique, hein, si demain tu enlèves aux 50 premières fortunes françaises, tu leur enlèves 99% de leur patrimoine. T'imagines la violence, hein? 99%.
Ouais.
Ça change rien à leur vie. Ils vont dans les mêmes restos 3 étoiles, les mêmes palaces. Ils voyagent toujours, ils peuvent encore se louer un jet, ils ont toujours un personnel de maison absolument démentiel. Enfin, on en est là. Ça n'est que de l'accumulation. Je veux dire, Bernard Arnault, tu lui prendrais 99% de ce qu'il a comme patrimoine, ça ne changerait rien. Donc, il y a un truc très connu en sciences sociales qui s'appelle la fenêtre d'Overton. Donc, c'est le scope des idées qui est acceptable dans une société à un moment donné. En mai 68, quand il y avait la révolution, des écarts de salaire de 1 à 10, ça paraissait indécent. Et les gens défilaient pour qu'on reste sur 1 à 6.
Wow.
Aujourd'hui, 1 à 400, c'est toléré. Je ne suis pas sûr que ça le reste très longtemps.
Super conclusion. Comme tu ne chômes pas, tu as publié un autre livre, On finira avec les idées fausses propagées par l'extrême droite. Donc, on change de sujet pour cette dernière question. Qui effectivement, ces idées se diffusent massivement. Comment est-ce que tu réponds à l'idée que les étrangers vivent sur le dos des Français et profitent de nous?
Non, pardon, je devrais avoir l'habitude, mais ça ne finit jamais de me couper le souffle. En fait, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent, et c'est extrêmement logique quand on y réfléchit deux secondes, que Les étrangers, ça rapporte beaucoup d'argent à la France. Je veux dire, ils ont pas de patrimoine, ils ont pas de réseau, ils ont pas de réseau familial sur lequel ils peuvent se reposer. Donc, ils travaillent, ils cotisent énormément. Ils sont en général pas très malades. Mais en plus, quiconque dans sa vie a déjà pris le premier TER ou le premier RER voit bien que ce qu'on appelle la première ligne pendant le Covid, les gens qui vont faire le ménage dans les bureaux, mettre des palettes dans les supermarchés pour qu'on puisse manger, les logisticiens, logisticiennes, les personnes qui vont s'occuper des personnes en situation de handicap, des personnes dans les EHPAD, bref, toutes celles et tous ceux qui tiennent à bout la fragilité ou les besoins essentiels de nos vies de bourgeois, c'est des non-blancs. Voilà, il y a cette idée fausse, un peu catchy, de « Ah, s'ils étaient tous dehors, ça irait mieux ». Il suffit de voir ce qui s'est passé en Angleterre pendant le Brexit. Hein. Ils ont fait le Brexit, ils ont littéralement chassé les immigrés qui n'avaient plus le droit de venir parce qu'ils n'étaient plus anglais, et voilà. Bah, tout d'un coup, il y avait des carences dans tous les supermarchés et dans tous les Marks & Spencer, et donc ils se sont retrouvés eux-mêmes à devoir assouplir, parce qu'en fait... Sans l'immigration des pays vieillissants, comme l'est la France, serais-je.
Merci Vincent. Tes livres, donc notamment Quand la charité se fout de l'hôpital, sont dispo partout en librairie. Et si tu as kiffé cet épisode, bah, tu vas adorer évidemment celui avec Nicolas Framont sur les milliardaires sont-ils des parasites, et celui, bon, évidemment, sur l'évasion fiscale. C'est un de vos épisodes préférés d'ailleurs sur les milliardaires sont-ils des parasites.
Je plus sois très grand livre, Nicolas Framont, je l'ai évidemment lu avec beaucoup d'intérêt, mais je vais le réécouter alors que chez toi, dit. Ça, je ne l'ai pas encore fait.
Ouais, il y a deux épisodes sur le diagnostic et après, effectivement, comment faire la révolution. Ça risque de te plaire.
Je vais m'y mettre. Merci, Pierre.
Merci, à dimanche prochain. Salut tout le monde.